des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous? Clotilde Saille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois cette émission des livres plein les oreilles. Je voudrais tout de suite dire un petit mot, vous remercier parce que on m'a fait savoir assez récemment que cette émission serait la plus écoutée sur la radio et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir et vous faites bien. Parfois, c'est parce que vous trouvez qu'il y a trop de changements. Parfois, vous trouvez que c'est parce que vous aimez les invités. Si je peux me permettre de vous suggérer quelque chose, faites-nous aussi vos commentaires et dites-nous s'il y a un auteur, une auteure une personnalité que vous aimeriez que j'invite à cette émission-là. Aujourd'hui, nous en avons autour de nous et j'en suis tellement contente. Je vais m'entretenir dans quelques secondes avec Suzanne Lalumière. Ici, pour la première fois, je reçois Joanne Tremblay. Bonjour Joanne.
Bonjour.
Je vais aussi me tourner à un moment donné vers Monique Kirouac, qui est bénévole ici.
Oui, bonjour Clotilde.
Ça va bien,
bonjour,
Monique.
Mesdames.
Et puis, bon, nous avons aussi Marie Lalande qui est là parce que c'est Marie qui m'a fait connaître l'auteur Joanne Tremblay. Et puis, chronique du SQLA aujourd'hui avec Hélène Gauthier. Suzanne Lalumière, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Ravie une nouvelle fois que vous ayez accepté mon invitation, surtout qu'on va parler d'un auteur qui n'est absolument pas connu au Québec, qui n'est même pas enregistré en audio au Québec, mais je rassure tout le monde, on va vous donner la possibilité de pouvoir vous procurer les livres de cet auteur-là en audio adapté. Mais je vous laisse le soin de nous le présenter, Suzanne.
Écoutez, Jean Fayet est un auteur très connu en France, très prisé, et je l'ai découvert par la médiathèque Valentin, chez qui on peut trouver une vingtaine de volumes. Jean Fayet est un écrivain breton.
Oui.
Et il vit dans le Finistère. Mmh. Il est d'origine modeste, ce qui lui donne un avantage. Il nous présente toujours des personnages très crédibles. Mmh. Son père était menuisier, sa mère blanchisseuse. Et lui-même a une formation de comptable.
Oui.
Alors, il a travaillé quelques années, fait des menus métiers, puis un jour, il s'est lancé en écriture. Mmh. Et depuis, il est très, très productif. Mmh. Une trentaine de livres à ce jour et il ne cesse d'écrire.
Et toujours sur la Bretagne. Tu veux dire, toutes les intrigues se passent en Bretagne.
La plupart se passent en Bretagne et ce que j'aime avec lui, quand on aime voyager, on voyage dans son livre. Mm. Ça, c'est, il nous décrit bien les lieux et tout ça, c'est très très bien. Alors, je voudrais parler dans un deuxième temps de ses personnages parce que...
Oui.
Ce sont les enquêtes de Marie Lester. Alors, on s'entend dans un roman policier, ce qui est important, c'est le personnage principal, Marie Lester, non la moindre.
Ah oui?
c'est une avocate de formation. Okay. Qui a décidé de devenir enquêtrice dans la police nationale. Il faut savoir qu'il y a la police nationale et il y a la gendarmerie. Et il y a une petite rivalité entre les deux, là. Mm. Et c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui fait de très belles enquêtes, qui...
On appelle ça une coquille, mais c'est pas grave. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de la faire. J'étais sûre qu'avec l'humour que vous avez, Suzanne, vous l'auriez ri. Excusez-moi de vous avoir interrompu bêtement.
Ben, j'ai absolument rien contre le rire et j'ajouterai que Marie Lester a toujours des altercations, des joutes verbales avec le commissaire Fabien. Ouais. Et à chaque fois, j'ai ri.
Ah oui, hein?
Je riais tout seul dans mon coin en train de lire. Alors, c'est vous dire que c'est intéressant pour ça. Bon. Maintenant, Il y a le commissaire Fabien qu'on qualifie de vieille France parce qu'il a beaucoup d'expérience, parce que c'est le patron, puis parce qu'il s'exprime d'une certaine façon. D'ailleurs, Marie Lester a toujours des joutes avec lui et on dit elle peut citer des articles de la loi et parfois aussi des termes latins. Puis ça enrage son patron. Alors, il dit, écoute, parle-moi donc pour que je comprenne. Et ensuite, il y a... ça, ce sont des personnages qu'on retrouve dans tous ces livres.
Hein. Genre, je sais pas moi, Errare Numen West ou Pilote, il fait quoi? C'est ça?
Alors, puis on a le lieutenant Fortin, c'est son... bon, il intervient dans le livre bien souvent quand ça devient corsé et un peu dangereux. Mm-hmm. Deux autres petits personnages qui sont très sympathiques. Amandine, c'est une retraitée qui l'aide dans l'entretien de sa maison, qui s'occupe de son chat Mildu. Mm-hmm. Et bon, on entend parler de recettes bretonnes, de la choucroute de la mer. Mildu qui est un chat un peu particulier, qui peut devenir son chien de garde aussi.
Ah bon?
Alors, on y va. J'ai lu le livre « Le renard des grèves ».
Oui.
Et ce qui est particulier, c'est que là, ça fait 15 ans sur la côte bretonne, sur le littoral, qu'on a des incidents. Les bateaux coulent, oui. Les amarres sont coupées, certains édifices prennent feu. Puis, comme par hasard, la gendarmerie n'a jamais résolu le problème. Donc, on dit que ça fait 15 ans. C'est un pays un peu particulier. C'est un pays très fermé. Les gens se tiennent entre eux. Ils ont connu la guerre. Puis après la guerre, ils ont fait du pillage dans les bateaux. Puis la clandestinité, le silence, ils connaissent bien. Mmh. Alors, Marie Lester décide d'aborder le problème en se faisant passer incognito. Elle dit, elle arrive sur la plage avec sa caméra. Et c'est une photographe aussi. Et elle se fait connaître des gens, rencontre un premier pêcheur, puis il dit « Oh, j'aimerais bien aller faire de la photographie, est-ce que je peux aller faire un tour de bateau avec vous, votre prochaine sortie en mer? Mm-hmm. » Puis le type, il s'attend à quelqu'un de naïf qui aura mal au cœur tout le long, puis en plus, il est un peu gros temps. Mais non, c'est la fille d'un commandant de mer qui fait beaucoup de voiles, Marie Lester, a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc.
Oh, et bravo!
Alors, finalement, bon, elle rentre dans son intimité. Elle réussit à le faire parler. Ouais. Puis elle apprend que, bon, ben, il y a le renard. On soupçonne que le renard, c'est un individu qui est différent des autres, qui a jamais voulu se mêler, puis qui est un ancien goémier, un ramasseur de goémons. De goémons, c'est-à-dire des algues. Alors, elle apprend l'histoire, puis qu'on soupçonne le renard et tout ça. Mm-hmm. Et puis, elle va s'approcher du renard, elle va le contacter, prendre des photos, rentrer dans son intimité pour se rendre compte que, bon, il n'est pas tout à fait innocent, mais il n'est pas coupable. Hein? J'en dis pas plus.
Oui, non, c'est parfait. Non, c'est parfait,
puis,
si on
et
veut.
Et puis, par la suite, ça, c'est le premier tome.
Imaginez.
Alors, elle fait des contacts avec tout le monde. Puis, dans le deuxième tome, nous avons encore une explosion de bateaux. Et puis, l'enquête avance tranquillement, mais Marie Lester n'est pas satisfaite parce qu'elle observe, elle sait qu'il y a tel individu, tel autre. Elle soupçonne des gens. Ils ont visité plusieurs maisons. Elle est avec son acolyte parce que ça devient dangereux. Il y a des tirs. Alors, ça devient un peu plus dangereux. Puis, elle nous fait découvrir le littoral, nous parle des plages, puis de l'organisation.
Ça, c'est sympa.
Alors, on fait un peu...
du tourisme.
On voyage.
Surtout que c'est pas dégoûtant, hein. C'est pas ragoûtant du tout. Là, les plages là-bas, c'est tellement magnifique.
Ce
sont
beau.
Des plages très, très sauvages et c'est pour les gens qui aiment les huîtres.
Vous pouvez
déguster les huîtres à peine elles sont arrivées. Hop, ils vous les ouvrent. Bon,
ah oui.
C'est quelque chose. Hein.
C'est ce qu'elle nous fait vivre.
Bon.
Alors, elle fait un retrait stratégique à un moment donné. Elle dit, bon, j'ai pas résolu les problèmes. La gendarmerie m'aide pas. Je m'en vais. En réalité, elle s'en va pas du tout. Et puis, on arrive à la solution avec, évidemment, les gens n'ont pas parlé, mais elle finit par trouver qui est à l'origine des problèmes.
Mais c'est l'omerta.
Et il y a beaucoup de gens impliqués.
Bon, alors, on rappelle, parce que ce qui est important, hein, surtout, je pense, c'est de bien savoir qu'il s'agit de Jean Fayet, l'auteur.
Oui.
Ça s'écrit F-A-I-2-L-E-R.
Oui,
et que cet ancien mareyeur, hein, parce que lui-même d'ailleurs, il a mis les mains dans l'huître très longtemps, est donc devenu auteur à l'occasion, entre une partie de golf et élever ses enfants et ses petits-enfants. Et il a écrit 47 enquêtes de Madame Marie Lester, ce qui est quand même pas rien, il est prolifique, le bonhomme. Et qu'on peut les trouver à ce que vous appelez l'audiothèque Valentin.
Non.
La bibliothèque.
Je vais suggérer un lien. Les gens qui vont sur l'Internet peuvent faire Bienvenue sur EOL, un service de la médiathèque Valentin.
Si on fait donc Bienvenue sur EOL. Un service de la médiathèque Valentin, on va le dire et le redire. On en parle déjà depuis pas mal de semaines hein, ici à cette émission, parce qu'on s'est dit que, évidemment, comme ici au SQLA, ça reste un petit marché et il n'y a pas énormément, on trouve, de livres. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent lire le plus possible. Alors, on est en train de s'étendre et de parler justement de ces audiothèques-là qui existent de l'autre côté de l'Atlantique et qui fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire
et même très facilement.
Voilà.
C'est très simple à utiliser.
Bon.
Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est aller à inscription, dire nouvelle inscription et les gens demandent à l'INLB, par le truchement du service des archives, un résumé de leur vision.
Voilà, c'est ça.
Et ils font une copie, ils l'envoient et avec l'adresse, le nom, et deux jours après, ils sont inscrits.
Oui, et
il
ça va
de
très
même
vite.
Pour la bibliothèque sonore romande.
Oui,
exactement.
Exactement le même principe. Donc, il nous arrive également de parler. Le temps tourne malheureusement, hein, Suzanne. Alors, je vais être obligée de mettre un terme à notre discussion. Mais je vous remercie d'avoir reparlé à nouveau de cette bibliothèque sonore-là. Et puis, merci de nous avoir fait connaître M. Jean Fayet et ses romans policiers qui doivent, j'imagine, se trouver sur papier, mais en audio, qu'on peut trouver donc chez Valentin Huy, à l'adresse que vous avez donnée. Je vous souhaite une belle fin de journée, Suzanne.
Merci beaucoup à vous aussi.
Ah, regardez, je parle, mais quand vous écouterez l'émission d'ici deux semaines, là, ben, vous allez voir, j'aurais pensé à vous et je vous aurais mis un beau verre d'oreille, breton, dans les oreilles. Voilà, des verres bretons plein les oreilles, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant l'émission. Allez, bonne journée. Salut.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana.
incantations de druides et de magie. Tout attribu, le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana.
Ah voilà, un petit clin d'œil à nos amis bretons qui nous écoutent peut-être via internet, allez savoir, et surtout à Suzanne Lalumière qui a très très bien fait de nous présenter l'œuvre de Monsieur Jean Fayet. Une nouvelle auteure, maintenant il arrive qu'il y ait des gens que j'ai déjà reçus deux fois, trois fois, ça fait quand même cinq ans que cette émission roule, mais là je reçois pour la première fois Joanne Tremblay. Bonjour Joanne.
Bonjour Clotilde.
Et puis bonjour Marie Lalande, parce que
oui,
Marie,
bonjour.
C'est vous qui avez initié cette rencontre littéraire et humaine aujourd'hui avec Joanne Tremblay.
Et j'en suis très contente.
Moi donc.
Alors Joanne, ce livre que j'ai dévoré, est-ce que vous parlez de nouvelles, vous? Parce que,
oui.
Ou de courtes histoires?
C'était des nouvelles,
Oui. C'est un livre, on peut le dire, on ne défleure rien. Il y a beaucoup de personnages, mais un seul lieu, c'est un restaurant.
C'est ce qui fait hésiter les gens à se demander. Les gens se demandent, est-ce que ce sont des nouvelles, comme vous le faites,
ouais,
ou des
ouais.
histoires, parce que toutes les histoires se déroulent dans le même restaurant.
Dans le même restaurant.
Le même soir.
Quand vous l'avez écrit, vous pensiez à un restaurant précis?
Moi, j'ai eu l'idée de cette histoire-là au Paris-Brest, à Québec, où j'étais allée il y a quelques années avec mon mari.
Qui est fermé maintenant.
Oui.
Et vous savez, moi, j'avais le petit extra à Montréal.
Oui.
Et à chaque fois...
Ça s'applique tout à fait.
Oui. À chaque fois, moi, pour ceux qui connaissent, mais je pense, et vous savez ce qui est bien, Joanne, c'est que chacun va se faire une idée de son propre restaurant.
Mmh. Oui.
C'est clair, où on a nos habitudes et...
Les points de repère.
Bon, alors, la genèse de ça, ça vous est venu comment, Joanne?
Eh bien, au Paris-Brest, ceux qui ne sont jamais allés, c'était un restaurant un peu guindé. Les serveurs avaient... préservaient leur style, c'était très classe.
Très brasserie, genre avec les habits blancs et noirs, comme
oui,
on voit à Paris
à fait.
Beaucoup.
Oui, on avait bien. Beau pousser une petite farce, le serveur ne perdait jamais sa contenance.
Et pendant Prout tout le... ma chère, comme on dit.
Et pendant tout le repas, le serveur nous a apporté les plats, il repartait avec style.
Ouais.
Et presque à la fin, il est arrivé avec sa petite brosse pour ramasser les miettes sur la nappe.
Oui.
J'ai dit, oh, j'aimerais savoir ça, moi. Et c'est comme si j'avais ouvert une porte secrète.
C'est vrai?
Le serveur est disparu, c'est devenu mon voisin. Il a dit, ah, ça, madame, c'est extraordinaire. Si vous saviez, il ne faut pas prendre de mauvais modèles. Hein. Il y a deux modèles. Il finissait plus. Et c'est là que j'ai constaté que, au restaurant, souvent, on prête une vie aux gens qui nous entourent, mais.
Oui.
Souvent, on est à des kilomètres de la réalité.
Oui, oui.
Et lui, cet homme-là, tout à coup, je lui ai donné
une
nom.
Oui, non, mais c'est ça,
tout à fait.
Plus qu'un serveur, voilà. Elle l'a très bien dit, Mme Kiroir,
oui.
Monique. Une âme.
Oui. C'est ça. Et en rentrant de Québec ce soir-là, je me suis dit, il y a vraiment des histoires à écrire autour d'un restaurant. Parce que...
Dans le restaurant, d'ailleurs.
Autour
un peu, quand même.
Et chaque table est une histoire en elle-même.
Et ça se passe un mercredi soir, mesdames et messieurs, d'où le titre « Un mercredi comme les autres ». Pourquoi le mercredi? À un moment donné, c'est un peu dit dans le... Parce que là, il y a un groupe qui va souper là, puis qui dit « Oh, au moins le mercredi, on sait qu'on trouve toujours de la place. »
D'une part, et puis je voulais pas l'écrire... Je voulais pas que l'action se déroule un samedi ou un vendredi, parce que là, il y a les rendez-vous galants. Il y a beaucoup de rendez-vous galants.
Mm-hmm.
Un mercredi soir, ça permettait...
Ah, vous pensez ça, vous? Le samedi soir, c'est pour les rendez-vous galants?
Ah, ben oui! On se rencontre le vendredi, puis on sort le samedi, première date.
Alors qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets différents dans ces rencontres. Il est question de la séparation, il est question d'un contrat. D'ailleurs, celui-ci, ça, c'est un truc que j'aurais appelé à vomir, moi. Parce que c'est exactement ce qui arrive, d'ailleurs, avec cette productrice.
Oui, oui.
Oh mon Dieu, qu'elle est insupportable.
Oui.
Alors, tous les thèmes... C'est pareil, ce sont des choses... Bon, ça, évidemment, c'est le secret de l'auteur. On a toujours tendance à se dire, mais comment ça vous est venu? Est-ce que tous ces thèmes-là, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des événements que vous-même ou des gens de votre entourage ont pu vivre dans ce genre de circonstances ou non, pas du tout? C'est la créativité qui a fait.
Il y en a une ou deux qui trouvent... racine dans les gens que je connais.
Oui.
Mais sinon, je voulais avoir
un éventail
d'histoires de gens seuls, de couples, de familles, de gens d'affaires, d'âge différent.
Ah, celle qui est seule, je l'ai beaucoup aimée. Attendez.
Ben, c'est ma préférée.
Ah, ben moi aussi. Oui. Eh ben moi aussi. Et en plus, voilà. Et la soirée solo en public. C'est une des expressions que vous utilisez en page 58. Ah, je l'ai tellement aimée, celle-ci. Un extrait, si vous me permettez. Envoyez-vous beaucoup des femmes seules au restaurant? Demande celle qui écrit à son psy, ou à sa psy d'ailleurs. La psy avait réfléchi quelques secondes avant de répondre par l'affirmative. Je ne vous parle pas du midi là ou d'une pizzeria, je vous parle d'une soirée dans un bon restaurant avec le menu inscrit à l'ardoise et les serveurs qui vous décrivent les plats dans le détail. Il n'y a pas de femmes seules dans ces restaurants-là. Et la psy demande pourquoi selon vous? Et l'autre répond, parce que ça fait loser. Elles ont l'air de filles que personne n'a eu envie d'inviter et qui doivent se résigner à passer la soirée seule au restaurant pour changer de leur souper seule devant la télé. C'est peut-être meilleur, écrivez-vous, mais il n'y a pas de télé. Et alors donc, c'est ça. Elle lit un livre de Flaubert.
Elle lit Madame Bovary.
Elle lit Madame Bovary.
Elle tente de lire, en fait.
Oui, elle tente de lire, c'est ça. Qui lui a semblé plus approprié pour une soirée solo en public. J'adore cette expression-là. Ouais. Soirée solo en public. Et finalement, ce livre-là, elle finit par l'oublier sur la table, comme le souligne Marie Lalande. Ouais. Et ça ne lui fait pas de peine du tout.
Ça ne lui fait pas de peine. Et d'ailleurs, souvent quand on... en tout cas, pas souvent, je ne sais pas. Mais moi, il m'est arrivé d'aller au restaurant toute seule et d'avoir l'impression que...
On nous regarde.
Je donne, malgré moi, un spectacle. Il faut faire attention.
Oui.
Alors, elle, ça prend vraiment toute la place dans sa tête.
Et... Oui.
Puis en plus, elle fait attention à ce qu'elle mange.
En plus. Mais oui. Elle ne veut pas trop mastiquer, mais elle ne veut pas engouffrer non plus.
Mais d'où d'ailleurs aussi Madame Bovary, parce qu'elle trouve que ça fait très bien pour une femme seule.
Oui. Ça fait convenable.
Tu dis 50 nuances degrés. Bon,
non,
toi,
ça,
j'ai peut-être
c'est
pas...
trop évident. Non. Mais toutes ces histoires mettent en scène des personnages qui vivent une situation. Donc, dans chacune des histoires, il y a quelque chose qui se passe. Moi, ce que j'aimais quand j'ai lu ce livre-là, c'est que il y a un lien qui réunit, il y a un lien entre chacune des histoires.
Oui, parce qu'à un moment donné, il y en a une qui s'approche d'une table et celle qui s'approche de la table, on la retrouve après à une table au milieu d'une fête, par exemple.
Elle s'est invitée?
Non, c'est pas ça, mais à un moment donné, elle reconnaît quelqu'un.
Ah, d'accord. Okay.
Et c'est le couple sur lequel on fait un zoom. Et donc, alors elle s'approche, et en plus, ça c'est très touchant. Ça c'est la deuxième histoire.
Le vieux couple.
Le vieux couple avec cette femme Alzheimer et ce type qui voudrait la voir revenir et qui la perd et qui dit que même il y a même une table entre eux parce qu'il n'ose pas trop la toucher. Et il y a donc cette bonne femme qui arrive. Elles font partie d'une chorale.
Ah, oui.
Et l'autre lui dit, non, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, apparemment, elle n'est absolument pas au courant. Et la madame Alzheimer ne la reconnaît pas. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Elle nous importune.
Ah, oui.
Bravo pour l'écriture, Joanne.
Par rapport à...
Celle-ci, m'a tellement touchée que c'est celle que j'ai choisie. Je vais en lire un bon extrait en seconde partie. Parce que je trouve que la façon dont vous décrivez l'Alzheimer de cette femme-là et surtout la façon dont son époux le vit. Et bon, tant pis si je déflore un peu, mais on découvre à la toute fin qu'en plus, c'est le dernier repas avant qu'il aille la porter dans un endroit parce qu'il ne peut plus s'occuper. Oui, vous voulez dire quelque chose?
J'ai une question à poser à
Madame Tremblay. Oui, allez-y donc, j'aime ça.
Je suis curieuse.
premier livre, je comprends.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a... Bon, entre une idée et passer à l'écriture et à la publication, comment s'est fait ce cheminement?
C'est une femme d'écriture, hein?
C'est une femme d'écriture. Ah, oui. Je ne sais pas. Ah, d'accord.
Je dois dire que pendant quelques années, avant d'écrire ce livre-là, avec une amie, Marie-Claude Desorcy, on a travaillé sur des projets de télé en fiction.
D'accord.
Dont un qui s'appelait... qui a été une première version de Mercredi comme les autres, d'accord, qu'on a soumis à plusieurs producteurs. Il y en a un seul qui s'est montré intéressé, puis il a dit, ben, ça ne marchera pas vraiment parce que il n'y a pas un personnage qui revient. Alors, il faut des personnages qui reviennent.
Okay.
Alors, après avoir tenté de nous convaincre de le changer pour faire une espèce de chez Denise, une grosseur, il a dit, bon, ben, ça ne marchera pas.
Ah, d'accord.
Et quelques années plus tard, j'ai décidé d'en faire un recueil avec la permission de Marie-Claude.
Et d'ailleurs, une de ses nouvelles ou un de ses récits, c'est pas cette histoire-là,
c'est cette histoire.
Voilà, où on retrouve à table une productrice de télé telle qu'on peut les imaginer.
Il
y a qu'eux qui travaillent, il y a qu'eux qui sont occupés.
Et qui savent,
et c'est eux qui ont le pouvoir. Et les deux malheureux qui sont ceux qui grattent et qui écrivent, qui sont les larbins, puis qui ont toujours hâte de la voir, parce qu'au bout de cette rencontre-là, il y a peut-être... Ben, l'avenir qui s'ouvre ou qui se referme sur éventuellement une série, justement, télévisuelle ou pas. Ça aussi, mais vous savez, il y a même la mort est évoquée dans ce livre-là. Mais là, j'en parlerai pas parce que je trouve que c'est tellement surprenant que ce serait dommage de déflorer. Mais même la mort s'invite... Dans ce restaurant, où il y a aussi, à un moment donné, un détour par les cuisines.
Ouais.
Et comme le disait justement Marie Lalande, chacun des personnages, ils sont touchants parce que c'est nous.
Mm-hmm. Ouais.
C'est vraiment nous. Je veux dire, bon, la fête de famille, c'est nous. La séparation avec... Et puis la bonne copine à qui on se confie, c'est nous. Il n'y a pas, à part... Peut-être justement celui de la mort, où là, on tombe sur deux personnages qui sont peut-être un petit peu plus marginaux, disons. Mais sinon, bref, pour un premier, je me dis, Joanne Tremblay, à quand le deuxième?
Eh bien, j'y travaille.
Ah! Voilà une bonne nouvelle.
Et on a hâte.
Oui,
d'ailleurs, en tout cas, vous me donnez le goût de le lire.
Voyez-vous. Ça fait plaisir.
Oui.
Alors, donc, vous y travaillez et bien sûr, j'aurai la joie, moi, de vous voir à nouveau en studio pour nous présenter.
Et il est disponible, ce livre.
Mais oui!
Et primeur, c'est moi qui le lis.
Ah!
Ah, oui, c'est vrai. Oui.
Bon, d'ailleurs, Marie, si vous n'êtes... Ah oui, mais vous lisez, vous faites du bénévolat cet après-midi. Encore,
ailleurs cet après-midi. Oui.
Bon, ben alors, ça vous dérangerait si c'était vous qui lisiez l'extrait?
Ça dépend à quelle heure ce sera. Mais
ben écoutez, ce sera dans à peu près 20 minutes à peine, non? Dans 10 minutes.
C'est
là.
Très bon. C'est très bon.
C'est parfait, on y va comme ça.
Oui.
Parce qu'à chaque émission, Joanne Tremblay, je lis un extrait.
Mm-hmm.
Mais là, si j'ai la voix que nos auditeurs vont entendre quand ils vont se ruer sur ce livre-là, parce que ça va être la ruée vers l'or, pour aller lire Un mercredi comme les autres, Histoire et excès de table. Ça, j'aurais dû donner le sous-titre qui est vraiment excellent. Et c'est écrit par Joanne Tremblay. Merci beaucoup, Joanne, d'être venue. Merci, Marie Lalande.
Merci.
De nous avoir présenté Joanne Tremblay.
Merci, Claudine.
Salut. Des livres plein les oreilles, la suite. Bon, c'est comme ça, c'est une petite gageure avec mes amis. J'ai dit, tiens, je vais vous faire ça à la miracrée. C'est Clotilde Saï qui vous accompagne une nouvelle fois pour la seconde partie de cette émission Des livres plein les oreilles. Et je vais céder ma grosse voix, je vais dire la place à une voix beaucoup plus douce que la mienne, une voix que vous connaissez bien parce que c'est la voix de Marie Lalande, Marie qui fait maintenant partie de l'émission Les Voix de Service depuis quelques années. Et puis Marie qui prête aussi sa voix à la lecture de livres pourvus et voix. Alors peut-être même avez-vous déjà emprunté des bouquins lus par Marie. Et là, il s'avère que c'est elle qui a lu le livre « Un mercredi comme les autres » qui est venu nous présenter en première partie Joanne Tremblay. Je lui ai dit « Marie, est-ce que tu peux rester là pour nous en lire un extrait ?»
Et c'est la voix de Marie Raconte, si vous avez des enfants.
Oui, c'est vrai.
Et que vous écoutez Marie Raconte le dimanche matin.
Oui.
Mais là, on est dans un autre registre. Oui. Hein, on va,
mais c'est tellement nouveau.
On s'adresse
nouveau,
à des adultes maintenant.
Mais oui, ouais. Oh, manquez pas ça. Si vous avez des enfants, manquez pas ça. Mettez-les devant le poste, comme à l'époque. Faites-les écouter ça.
8 h le dimanche matin.
À 8 h le dimanche matin. Ratez pas ça.
Bon, alors un extrait.
Oui.
Donc, de cette nouvelle qui s'appelle « Mémoire ». Mémoire flash. On ne te voit plus à la chorale, Marguerite. On s'ennuie de toi. Dis-moi pas que tu nous as lâchés. Le visage fermé de Margot est plus éloquent qu'un éditorial. Mais Violaine n'en a cure. À défaut d'avoir pu embrasser Margot, elle a posé une main sur son épaule et ponctue chacune de ses phrases d'une légère tape. Paul se dit qu'effectivement, la pauvre doit être un peu sotte pour violer ainsi la bulle de Margot et s'y installer avec un tel sans-gêne. Il tente une diversion. On y va moins souvent, mais on y va encore, hein, Margot? Tu fais partie du groupe assis là-bas, Violaine? Oui, on fête la fête de ma nièce Alexandra. Elle est tellement fine, puis intelligente à part ça. On vient le mercredi parce que c'est le seul soir qu'on a trouvé pour se voir tout le monde. C'est un bon restaurant ici. C'est-tu bon, votre plat? Margot a cessé de manger et fixe Paul qui tente par son sourire de lui exprimer que tout va bien. Oui, oui, très bon. Je pense que tes amis t'attendent. Oh, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas arrivé. Mais je veux pas vous déranger. Ben, vous déranger, justement, répond Margot. L'air rogue, en levant les yeux vers Violaine, dont le sourire fige tout à coup. Du grand Margot, se dit Paul tout heureux, sans essayer d'amortir le propos. Il faudrait quand même enfoncer un dernier clou pour faire bonne mesure. On se verra peut-être dimanche, Violaine. Bonne soirée. Violaine recule d'un pas, regarde Margot qui a recommencé à manger comme si elle-même n'avait jamais existé, puis Paul. Elle fait presque peine à voir, mais Paul n'a de compassion désormais que pour Margot. OK, d'abord, bonne soirée, Marguerite. Bonne soirée, Paul. Il y a trop de monde ici, grommelle Margot, toujours mécontente. C'est Violaine Leclerc. Elle chante dans la chorale avec nous, mais tu ne l'aimes pas beaucoup. J'ai pas eu besoin de te le rappeler, dit Paul d'un ton léger. Il y a trop de monde, répète Margot. Un peu énervée. Elle a pris 10 ans d'un coup. Disparu, le sourire léger. Les lèvres serrées accentuent les rides creusées par les années révolues du tabagisme. La lumière bleue dans l'œil délavé se noie dans le noir du regard, devenu méfiant. Les joues creuses s'enfoncent un peu plus. La fourchette dans la main crispée cogne contre l'assiette chaque fois avant de s'y poser, comme si Margot avait perdu ses distances. « Où es-tu, Margot? Reviens, reviens. » Paul tend la main vers Margot, hors d'atteinte. C'est le seul endroit où il ne peut la rejoindre. La table qui les sépare est de trop. Il veut la toucher, entendre dans sa voix l'insouciance d'avant, répondre à une boutade dont elle a le secret. Fondre de plaisir devant son sourire. Reviens, reviens. On est juste nous deux, Margot, juste toi et moi. Regarde-moi, ma belle Margoton. Le vieux surnom revenu sans crier gare est un sésame. La vieille femme lève les yeux et Margot reprend peu à peu ses droits. Reste, reste avec moi. As-tu envie, Margot? Margot fait non de la tête. Mais le prosaïsme de la question la rassure. Certaines choses sont plus simples que d'autres. Pauvre Paul. Elle sait qu'elle s'est absentée quand elle lui ouvre... Je recommence ça. Elle sait qu'elle s'est absentée quand elle lui trouve cet insistant regard de bonté où perce, oh mais à peine, le désarroi. La peur que ce soit déjà fini et qu'elle ne revienne plus. Je suis là. On est bien, juste toi et moi, non? C'est-il en cet instant que, dans sa voix, perce une peur qu'elle ressent de moins en moins souvent? L'oubli, tel un phare éteint, l'en protège de mieux en mieux. Pauvre Paul, seul sur son esquif, qui disparaît de plus en plus longtemps entre deux vagues. Les enfants vont veiller sur toi. Elle le lui dit comme pour s'excuser de partir trop tôt. En ce fugitif instant de lucidité, elle sait bien ce que signifie cette soirée.
Voilà, merci beaucoup, Marie Lalande.
De rien beaucoup.
De rien beaucoup pour cet extrait de « Un mercredi comme les autres, histoire et excès de table » de Joanne Tremblay. Je vous dis au revoir à toutes les deux parce que le devoir vous appelle. Devoir de chorale, d'ailleurs.
Devoir de chorale, d'ailleurs.
Alors, allez-y donc, mesdames, et merci une nouvelle fois de vous être déplacées. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Alors, on poursuit cette belle aventure qu'a cette émission à chaque semaine. Si vous saviez comment j'aime être là, vous pouvez même pas vous imaginer. Et on poursuit avec Monique Kerouac. Monique, comment ça va?
Ça va très bien. Ça va très, très bien. La vie est belle.
La vie est belle pour vous?
La vie
vous
est belle, surtout lorsque vous m'invitez, Clotilde.
Oh, c'est les violons.
Non, mais c'est très motivant de pouvoir présenter les livres que l'on a aimés. Et qui nous ont accroché le cœur à certains moments.
Parce que en plus, si vous avez aimé les lire, il y a toutes les chances pour que les gens aiment les entendre.
Oui.
Dans le sens que, parce qu'on n'aime pas toujours les livres qu'on lit.
Et c'est pas
négatif, c'est pas péjoratif de dire ça, mais on a malheureusement parfois pas le choix.
Oui.
Mais comme je dis toujours, faut quand même faire semblant. Et voilà, il faut faire semblant. De toute façon, ce ne sont pas nos mots. Nous ne sommes, vous et moi, Monique, qu'une voie de transmission.
Voilà. Mais parfois, on se laisse prendre. On n'imaginerait pas acheter un roman qui s'appelle Terre d'espérance, écrit par Barbara Wood,
par exemple. Finalement,
on s'y est laissé prendre.
Dites donc, une sacrée brique, hein?
Oui, tout à fait.
Alors, présentez-nous.
Alors, donc,
Terre d'espérance.
Terre d'espérance de Barbara Wood. Mm-hmm. On peut dire qu'il s'agit d'un roman américain, puisque l'auteur, bien que né en Grande-Bretagne, a grandi aux États-Unis.
D'accord.
De plus, la quatrième de couverture nous révèle qu'elle est considérée comme l'une des meilleures auteurs de sagas romanesques. Et elle en a écrit plusieurs, puisque je les ai tous énumérés. Il y en a une quinzaine. Un petit peu plus, qu'une quinzaine. Ouais, on est près, plutôt 18.
Est-ce qu'on va tous les lire? Et si c'est vous allez avoir de la job.
Oui, c'est ça. Ben, j'aimerais bien, finalement. Alors, son style, je vous dirais, est fluide, sans fioritures, mais avec des descriptions très sensibles, tant des personnages, des lieux que des événements. Puis, on voit son intérêt pour des causes, telles que celles de la femme et de l'environnement. Donc ça captive le lecteur, qui peut être friand d'histoires aux rebondissements multiples.
D'accord.
Mais peut-être un peu prévisible à certains moments. Bon. Mais bon, c'est pas grave, on s'en arrange. Et ce fut mon cas. Mm-hmm. Et celui de mon moniteur aussi.
Vous êtes, entre guillemets, fait avoir.
Je me suis fait avoir, totalement. Surtout, je vous dirais, les 500 premières pages.
Ah oui.
Vraiment.
Alors, il y en a combien?
Alors, c'est ça. C'est une saga romanesque de 608 pages, pour être bien précise, qui nous fait voyager de la Grande-Bretagne, où est né un des trois plus importants protagonistes du roman. Uh-huh. Il s'appelle Nigel Barnstable, 9e baron de la famille Stolwood. Ensuite, on nous fait découvrir la société cossue de New York, où vit Elizabeth Van Linden, qui est la fille unique de l'une des familles les plus riches de New York. C'est notre deuxième protagoniste, plus importante parce qu'il y en a plusieurs. Uh-huh. Puis, cette saga nous transporte en Californie. Alors, si vous aimez le voyage, c'est idéal.
C'est parfait.
Sans avoir à prendre l'avion. Et ce, dans les années 1920. Donc, on est à une autre époque. Et pour nous présenter, donc, en Californie, le développement de certaines villes américaines, comme celle de Palm Springs.
OK.
Alors, C'est à Palm Springs, d'ailleurs, que nous rencontrons le troisième protagoniste, soit Jody McNeil, le cow-boy ténébreux, solitaire et sensible. Imaginez-le sur son cheval.
Marlboro.
Marlboro, et surtout avec son Stetson noir,
okay.
Avec un boa accroché. Alors, et cet homme solitaire, sensible, il est sensible à la nature et aux tribus amérindiennes de la région. Et aussi, peut-être, vous le devinez, à la beauté de cette Élisabeth qui arrive de la grande ville. C'est pas grave si je vous dis si je suis une divulgatrice. Là. Le déclencheur de cette histoire captivante, eh bien, c'est le fait qu'à la mort de son père, Nigel Barnstable, bien que l'aîné de la famille, ne soit pas désigné comme le digne héritier du domaine et de la fortune familiale.
Allons bon.
Pourquoi? Eh bien, son père ne croit pas que le caractère impétueux, impulsif, dépensier de son fils soit favorable au maintien de la fortune familiale et de ses traditions. Quelle humiliation, vous en convenez.
Ben oui, c'est terrible.
C'est terrible, c'est évident. Il décide donc de quitter l'Angleterre pour développer un nouvel empire et faire fortune en Californie, aux États-Unis, où, dit-on, tout est possible. Je me permettrai de vous lire un petit extrait.
Mais j'allais vous le demander, Monique.
Quel heureux hasard! Alors, un petit extrait, je suis en page 36.
D'accord.
Il était temps d'apporter de la nouveauté dans sa vie. Tel un papillon sur une fleur, ses yeux se posèrent sur les mots « États-Unis ». Plus il songeait à ce vaste continent avec ses ciels et ses espaces variés, où les forêts de pins enneigés côtoyaient les déserts ardents, plus l'Amérique lui semblait être l'endroit rêvé pour un homme aussi ambitieux que lui. L'Amérique, le nouveau monde. Là-bas, j'aurai des terres, j'aurai du pouvoir. Mais en Amérique, il avait entendu dire qu'un homme n'ayant que 200 en poche pouvait devenir millionnaire. Et là-bas, s'il en avait la volonté, c'était possible, grâce à son imagination et l'ambition. Et lui, Nigel Barnstable, franchement intronisé 9e baron Stolwood, possédait ses qualités en abondance. Fin de la citation.
Eh bien, dites donc,
c'est
voyage,
monsieur.
Voyage au, quoi, aux States?
Aux States.
Est-ce que ça se dit, ça?
Aux États.
Oui.
Pour assurer ses arrières, ce jeune ambitieux épousera notre riche héritière américaine, Elizabeth Van Linden.
Oui.
Cette dernière, qui est sous le charme de ce beau et noble Anglais, qui, vous le devinez, cache bien son jeu, est aussi sous le joug de ses parents trop attentifs.
Ah là là.
Soit une mère possessive, un père protecteur. Et elle voit, dans la perspective de s'établir dans ces nouvelles contrées, la possibilité de s'affranchir
bien
de
sûr.
Ces liens trop intenses.
Dites-moi pas qu'elle est stérile.
Je dirais rien. Je dirais rien à ce sujet-là. Non. Alors, comment est Palm Spring à cette époque? Non, elle n'est pas. Je vous en assure, Clotilde. Alors, Palm Spring à cette époque, c'est quoi? Ben, c'est un village du Far West.
Ah, ben oui.
C'est pas une ville comme New York, là, où il y a le raffinement et tout. Absolument pas. C'est une ville-village située dans une région désertique, comparée à une mer plate de sable gris jaunâtre qui s'étire dans toutes les directions avec des maquis de broussailles rabougries. Mais tout de même, à proximité, des montagnes majestueuses.
Ah oui.
Et montagnes qu'Elisabeth va apprivoiser et dont elle appréciera les trésors et les beautés et qu'elle défendra avec détermination et héroïsme.
Écoutez...
Ça y est, c'est fini?
Oui, ça y est, c'est fini.
Oh, ben là!
Quoi, c'était votre introduction, ça?
J'ai pas fini.
C'est vrai, c'était votre intro?
Ben non, c'était pas mon intro, mais je voulais juste
dire... Il reste combien de temps à l'émission, mon petit Mathieu? 14 en tout. Bon, il faut que je parle avec Hélène. Prenez donc une minute de plus. Mais une minute, hein?
Oui, mais je ne dirai pas d'autre extrait.
D'accord.
Alors, une minute.
Vraiment,
découvrira également la tribu indienne des Kawiyas et ses traditions. Et leur tradition va être bouleversée par l'influence, bien sûr, l'arrivée des Blancs et de grands développeurs qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Alors, Elisabeth va prendre en main cette cause-là, en plus de la sienne.
Oui.
Parce que
elle est allée là-bas pour se découvrir aussi. Uh-huh. Et c'est ça qui est intéressant, de voir une femme qui est à la merci de son mari, qui va trouver les solutions pour se dégager de cette force de contrôle et devenir une femme autonome qui va défendre la cause des Indiens. Et on se dit, mais encore aujourd'hui, nous vivons de telles situations.
Mais oui, absolument.
Et c'est un peu ça que l'on sent à la lecture de ce roman. C'est ces situations que l'on peut transposer à notre vie d'aujourd'hui, quoi. Alors, je ne vous lirai pas le passage, mais je vous dirai que, comme c'est une saga romanesque, il y a un petit peu quand même d'amour qui flotte dans l'air. Et c'est Cody McNeil qui va jouer un rôle clé dans cette perspective-là. Bon. Mais ça ne sera pas simple comme histoire.
Bon.
Et j'ose espérer que j'ai piqué votre curiosité.
Absolument.
Et que vous aurez le goût d'aller emprunter ce livre de Barbara Wood.
Et on va attendre le tome 2. Terre d'espérance. Hein?
Je pense que tout se clôt bien, tout est bien ficelé à l'intérieur même du roman. Elle va trouver d'autres choses.
Oui, moi j'en suis sûre. Oui. Terre d'espérance de Barbara Wood, présentée par Monique Kerouac. Merci beaucoup, Monique.
Ça me fait plaisir.
Et je me tourne maintenant vers l'amie Hélène Gauthier, qui est, je vous le rappelle, bibliothécaire au Service québécois du livre adapté, qu'on appelle tout simplement par l'acronyme souvent le SQLA. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, je vous ai demandé, comme à toutes les semaines, de venir avec quelques nouvelles ou quelques nouveautés, et vous en avez quelques-uns pour nous.
Oui, j'en ai
quelques-unes d'ailleurs.
Oui, cinq pour vous cette semaine. Donc, on va commencer avec le nouveau roman de Roc Carrier.
Oui. Juste de pousser un petit peu votre micro, voilà, parce
encore un petit peu.
Ça c'est bien, mais ne vous avancez plus, d'accord, c'est parfait.
D'accord. Donc, le nouveau roman de Roc Carrier, demain matin, j'écris un roman, je l'ai appelé roman, mais c'est pas vraiment un roman, c'est très méta, c'est dans... Quand on étudie la façon de faire dans la chose...
Okay.
Ou la mise en abîme.
Donc, Roc Carrier parle de comment il écrit son roman dans ce livre. Donc, c'est vraiment dans les coulisses de la création, tout ce qu'il y a autour de l'écriture.
Oui.
Donc, il se propose d'écrire un nouveau roman. Il veut raconter la vie de deux amis d'enfance qui se retrouvent après s'être longtemps perdus de vue. Mais là, dans la tête de l'auteur, il y a différents personnages qui tentent d'entrer en scène. Est-ce que lui, je le prends? Est-ce que lui, je le prends pas? Dans quelle direction je vais? Est-ce que ça va être un récit? Est-ce que ça va être drôle? Ça peut être un voyage dans le temps? Ça peut être du théâtre d'été? Ça peut être un drame? Donc, il y a toutes sortes de directions que ça peut prendre. Puis on suit Roc Carrier dans toutes ces directions. Donc, on est témoin de son processus d'écriture. Comment est-ce qu'il nourrit son écriture? Où trouve-t-il ses idées? Parce que, bon, on s'imagine, on est auteur, on se lève le matin, on s'assoit devant son bureau.
Et hop, ça surgit.
Il y a tout plein de choses qui peuvent nous... Ou il y a des choses qui peuvent nous distraire aussi. Il y a l'actualité, il y a la vie de tous les jours. Donc, toutes ces choses-là prennent place dans l'histoire.
On le sait que ça prend une discipline de faire.
Et c'est incroyable, je serais totalement... Non, j'aurais pas la capacité de le faire.
Moi non plus.
Donc, il y a aussi un côté autobiographique à la chose. D'accord. Là, ça ramène des souvenirs qu'il décrit. Donc, c'est toutes sortes de choses à la fois. C'est une autobiographie, une exploration du métier d'écrivain qui peut être, bon, qui est moins glamour qu'on peut le penser. Un recueil de billets d'humeur aussi, selon l'actualité. Donc, c'est très surprenant, c'est très divertissant. Donc, c'est bien pensé. Puis, c'est assez court. Donc, c'est une belle petite chose pour se distraire.
Demain matin, j'écris un roman, Roc Carrier. J'adore le titre.
Oui,
allez-y.
Manuel à l'usage des femmes de ménage, de Lucia Berlin. Une auteure dont j'avais jamais entendu parler, qui était vraiment méconnue. Elle est décédée en 2005, à l'âge de 68 ans. Oh. Elle a été décrite comme le meilleur écrivain dont vous n'avez jamais entendu parler. Et elle est revenue dans la conscience des gens récemment, en 2015, lorsque ce livre, Manuel à l'usage des femmes de ménage, a été réédité.
OK.
Donc, une femme extrêmement intéressante, qui a eu une vie très turbulente. Elle est née en Alaska en 1936. Son père était ingénieur minier, donc elle l'a suivi à travers l'Amérique du Nord. Elle a passé son enfance à El Paso. Elle est allée au Chili, où elle est demeurée avec sa mère qui souffrait d'alcoolisme. Elle a aussi passé du temps à New York dans l'âge d'une vingtaine, donc vraiment de la période bohème, les beatniks, les artistes. Donc, puis elle s'est retrouvée en Californie dans les années 60, où là, vraiment, c'est un boom, la Californie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Une vie très nomade. Mm-hmm. Elle a eu toutes sortes de petits boulots. Professeure remplaçante, infirmière, auxiliaire médicale. Donc, toutes ces expériences-là ont nourri les histoires. Donc, c'est un recueil de courts récits, 43 courts récits.
OK.
Donc, tout ça ensemble nourrit ces récits ou des mini-scènes qui présentent le quotidien d'une Amérique ordinaire.
Mm-hmm.
Donc, elle nous amène dans des centres de désintoxication, une buanderie, mm-hmm. des files d'attente, vraiment la vie de tous les jours. La narratrice des histoires, c'est vraiment l'alter ego de l'auteur. Donc, on apprend à la connaître. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Et c'est vraiment... Pour la littérature, hein, c'est ce que j'ai lu à son sujet lorsque je préparais l'émission. Et c'est, on dit vraiment d'elle que c'est un maître de la narration qui se nourrit du réel pour émerveiller son lecteur. Et
oui.
Vous venez de confirmer hein, ce qu'on peut lire sur cette femme dont je rappelle le nom, Lucia Berlin, manuel à l'usage des femmes de ménage. Il nous reste combien de temps à l'émission, mon petit ? 6 minutes. On pourra peut-être pas parler des trois.
Okay.
Duquel des trois, là, tout de suite, vous voudriez nous parler, mon ami?
Mais je vais y aller
Hélène.
Avec Lola Lafont.
Oui.
Mercy Mary Patty.
Patty oui, oui.
Un livre absolument fascinant. Donc, trois noms de femmes qui forment le titre. La Patty, dont on fait référence dans le titre, c'est Patty Hearst, une jeune femme qui a été kidnappée en 1974 et qui venait d'une famille très riche. Elle a été kidnappée par un petit groupe d'extrême-gauche révolutionnaire. Donc, au début, on prenait en pitié cette jeune femme, pauvre fille à papa qui s'est fait kidnapper. Après quelques semaines, elle a pris à cœur la cause de ses kidnappeurs. Elle participait à leur cambriolage. Il y a une fameuse photo d'elle mm-hmm. avec une arme au poing qui cambriolait une banque. Et les deux autres noms dans le titre, Mercy et Mary, font référence à deux autres femmes historiques. Donc, Mercy Short et Mary Jameson, qui ont été kidnappées respectivement en 1690 et 1753 aux États-Unis par des tribus amérindiennes et qui ont fini par s'intégrer à ces tribus et ont refusé de les quitter pour aller rejoindre leur famille. Donc, des femmes qui vraiment ont tourné le dos à leur routine, à leur identité initiale et ont décidé de suivre ce nouveau chemin qui leur a été proposé. Donc, l'auteur s'intéresse vraiment à ces moments de métamorphose, de conversion, mais ce n'est pas une biographie. On est tout de même dans le roman qui utilise des éléments véridiques. Donc, on a un personnage fictif qui est chargé par l'avocat de la famille Hearst de rédiger un rapport qui disculpera la jeune fille lors de son procès.
Mm-hmm.
Donc, elle engage une jeune fille pour l'aider à analyser la presse, les pièces du procès, mm-hmm. et puis il tente de comprendre la situation et d'arriver à un consensus. Et ces femmes-là aussi passent à travers un processus de métamorphose, de remise en question. Donc, on confronte vraiment différentes personnalités, la réalité versus la fiction littéraire, mais aussi la réalité versus les perceptions.
Oui.
Donc, un roman, encore une fois, très intéressant.
Dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est sur ma table de chevet et que vraiment tout le monde me l'a recommandé grandement. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être, redonner le titre. Mercy Mary Patty, excusez-moi, j'ai un moins bon accent anglais que le vôtre. C'est écrit par Lola Lafont. Et ces trois livres-là nous étaient présentés aujourd'hui par Hélène Gauthier. Ça passe vite, oui, je sais, il y en avait deux autres. Mais ça fait rien, vous les gardez pour la prochaine
Exactement.
Fois. Exactement. OK, merci beaucoup de votre participation, Hélène. Bonne
plaisir,
fin de
merci.
Journée.
Au revoir.
J'ai entre les mains un petit livre que j'ai bien hâte de déguster en fin de semaine. C'est celui de Catherine Mavrikakis, qui sera ma prochaine invitée la semaine prochaine. Ce dernier opus s'appelle « Ce qui restera ». J'aime pas trop utiliser les quatrièmes de couverture, mais c'est, je pense, ce qu'il y a de mieux peut-être pour présenter cette personne qui sera en studio. Voilà ce qu'on nous dit en quatrième de couve de « Ce qui restera ». Une méchante fée se serait-elle penchée sur son berceau. Catherine Mavrikakis cherche à contrer le mauvais sort que les membres de sa lignée lui ont lancé. Elle n'est pas morte à 36 ans comme sa grand-mère, dont elle a hérité le prénom et comme son père le lui avait prédit. Mais à quel prix ? Qu'a-t-elle sacrifié ? Quel rêve a-t-elle dû assassiner ? À travers ses souvenirs, Catherine comprend l'importance dans son entourage de présence féminine, souvent tragique. Ce sont ces femmes qui lui ont permis d'exister. Elle retrouve alors la petite fille aventureuse et terrorisée, fragile et puissante, désespérée et pleine de vie qu'elle a été. Comment vit-on en ne se soumettant pas à l'avenir que d'autres ont écrit pour soi ? Que doivent inventer celles à qui on a dessiné un avenir ? L'écriture sait-elle mettre fin au ressassement des souvenirs qui entravent le futur ? Protège-t-elle contre les malédictions de toutes sortes ? Que reste-t-il de celle que Catherine n'a pas voulu être ? Petite plaquette, toute petite plaquette, mais je vous dis, j'ai très très hâte de m'y plonger et d'en parler avec l'auteur Catherine Mavrikakis la semaine prochaine. Je manque un petit peu de temps pour vous proposer des titres en rafale, mais peut-être qu'il y en a un que je vais vous proposer parce qu'il est dans la continuité de ce dont vous nous avez parlé, Monique Kerouac, du livre de Barbara Wood, et également de deux livres dont vous nous avez parlé, Hélène Gauthier. Il s'agit là de « Une enfance américaine » d'Annie Diard, D-I-2-L-A-R-D. L'éternité est amoureuse des productions du temps, disait Blake. Eh bien, Annie Diard, elle a grandi à Pittsburgh dans les années 50. Et ici, c'est une femme qui écrit toutes les espèces d'épiphanies qui ont marqué son enfance. Alors, les concours de blagues organisés par les parents, les voisins, leurs filles, les découvertes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette madame Annie Diard est considérée comme un des écrivains les plus talentueux de sa génération. Alors c'est pour ça qu'il est important peut-être de mettre la main dessus, parce que c'est désormais disponible au SQLA en audio adapté. Ça s'appelle « Une enfance américaine ». Voilà, c'était Clotilde Seil qui vous présentait des livres pleins les oreilles. Merci à mes invités Suzanne Lalumière, Joanne Tremblay, Monique Kerouac et Hélène Gauthier du SQLA. Merci Mathieu Tessier. Bonne lecture à tout le monde et à la semaine prochaine. Salut !